Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine autour de notre grande table. Aujourd'hui, l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud, auteur de Zabor ou les psaumes parus chez Actes Sud et d'une série d'éditos qu'il signe chaque semaine, notamment dans Le Point, et qui réunit et propose d'une certaine manière une grille de lecture du monde, la sienne, et sur laquelle on avait envie de l'interroger. Il sera notre invité après le journal d'Antoine Mercier à partir de 12h55. Mais d'abord, de passage à Paris à l'occasion du Maghreb Orient des Livres qui avait lieu ce week-end à l'Hôtel de Ville, l'écrivain libanais Elias Khoury est notre premier invité, rédacteur en chef de la revue d'études palestiniennes. Il publie aujourd'hui Les enfants du ghetto aussi chez Actes Sud en librairie après-demain. Il est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Auteur d'une dizaine de romans, dont Sine Alcool, dernier ouvrage paru, et Des Portes du Soleil, paru quant à lui il y a 20 ans sur l'exode des Palestiniens, adapté au cinéma par Yousri Nasrallah, Les enfants du ghetto est son nouveau roman. Et il en est quelque part la suite ou le pendant, puisqu'il revient notamment sur la vie de ceux qui sont restés en Palestine. Bonjour Elias Khoury.
Bonjour.
Un mot d'abord sur la construction de ce roman, Les enfants du ghetto. En préface, vous nous expliquez avoir choisi de vous réapproprier deux tentatives de roman d'un étrange personnage mort dans un incendie chez lui à New York où il s'était exilé, Adam Danoun, dont on ne sait pas très bien s'il est israélien ou palestinien. Au départ, il parle arabe et hébreu. Ses manuscrits ont été sauvés du feu. Suivra donc dans ce roman, dans ce livre que vous publiez aujourd'hui, Elias Khoury, après ce préambule, Le coffret de l'amour, projet de roman, première version, le récit inachevé d'un poète omeyyade, parabole humaine de l'enfermement et du silence, notamment celui ou ceux des Palestiniens restés au pays depuis un demi-siècle. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Puis l'histoire d'Adam Danoun, récit autobiographique de l'homme que vous plagiez, entre guillemets, rescapé du ghetto palestinien de Lod, qui s'appelait avant Lida, conquise par l'armée israélienne en 1948. Comment raconter une histoire qui me semble aujourd'hui pareille à une bobine de fil enchevêtrée, écrivez-vous dans ce roman, Elias Khoury? On a envie de vous poser la question, quel fil faut-il tirer, dérouler, quand on a un aussi vaste sujet entre les mains? Comment vous avez procédé?
D'abord, merci beaucoup pour cette introduction. Et merci d'avoir que je suis ici à... dans cette table. Et deuxièmement, vous voyez, l'écrivain n'est pas le référence, le vrai référence pour son travail, parce que quand le livre est publié, il est devenu le propriété des lecteurs, et c'est au lecteur de nous dire comment il pense. Parce que tout le temps, j'avais dans ma tête cette idée bizarre que l'écrivain, que moi, je dois écrire comme un lecteur pour que les lecteurs peuvent lire comme des écrivains. Et dans ce travail, j'ai essayé de faire ça parce que j'ai trouvé, je dis que j'ai trouvé, mais c'est pas vrai, j'ai trouvé un manuscrit par Adam Danoun, et j'étais le lecteur. Donc, comme lecteur, je peux parler comme lecteur, pas comme auteur. Comme lecteur, je peux vous dire que nous sommes dans un vaste monde d'une expérience humaine très profonde. C'est d'abord, l'histoire de Waddah al-Yaman, que Adam a commencé ce livre, il voulait écrire un roman métaphorique, une métaphore de la Palestine, et une métaphore qui donne la poids pour le silence. Parce que le silence, pour lui, le silence, c'est un acte de résistance. Contrairement à ce qui était écrit par Kanafani, par exemple, dans Les Hommes dans le Soleil, où Kanafani demande pourquoi ils n'ont pas frappé. Ici, Adam Danoun comprend très bien qu'il faut pas frapper, qu'il faut mourir, parce que l'enjeu de l'amour et l'enjeu de vraie résistance, c'est le silence. Et aussi, c'est un contre-récit sur l'idéologie dominante israélienne qui a dominé Israël après la création de l'État, qui condamnait les victimes de l'Holocauste parce qu'ils n'ont pas résisté. Donc, c'est ça le projet initial. Après, quand il découvre que son histoire est terrible, parce qu'il découvre par hasard qu'il n'est pas le fils de Hassan Dannoun, qu'il a été trouvé comme enfant sous un olivier avec sa mère qui était morte, et il était bouleversé, il a décidé de ne plus écrire une métaphore, d'écrire la vérité. Mais ce qui lui frappe beaucoup, c'est qu'il avait tout le temps peur que même la vérité peut devenir une métaphore. Et même son histoire vraie, concrète, peut être lu comme une métaphore. Il ne voulait pas être une métaphore.
Elias Koury, un jeu de rôle, un jeu de miroir dans ce roman qui nous perd et nous retrouve peut-être à l'image de ce vaste monde que vous évoquiez, un monde labyrinthique à sa manière, avec une mise en scène fictive de vous-même et une étrange ressemblance quand même avec votre protagoniste, Adam Dannoun. Il est qui pour vous? Un frère et demi? Un alter ego?
Non, il est un ami. D'abord, il est un très bon ami. On est devenu amis. C'était d'abord, la relation était très difficile au début. Parce que Adam Dannoun pense, il n'aime pas mon roman. Il n'aimait pas La Porte de Soleil. Parce que pour Adam Dannoun, les personnages de Porte de Soleil que je prétends, que j'ai inventés, sont des vrais personnages qu'il le connaît lui-même. Donc, il y avait une relation très difficile au début. Et après, j'ai commencé à comprendre cette relation entre la réalité et l'imaginaire chez lui, et de l'adopter. Donc, pratiquement, je me suis rendu compte, quand j'ai fini ce roman, que j'ai commencé à parler comme lui. C'est moi qui imite Adam Dannoun, pas le contraire. Et c'est une histoire personnelle très belle. Parce que normalement, dans mes anciens romans, je faisais ça, par exemple, dans La Porte de Soleil avec Nahila, avec une femme. Et vraiment, j'ai tombé amoureux avec elle. Un caractère fictif totalement, mais c'est la première fois que je me sens assez proche d'un homme qui est tout à fait différent de moi. Son histoire est tout à fait différente, mais qui a cette insistance de donner un sens à la vie, qui pour lui la vie n'a pas de sens. Donc pour lui, la littérature donne un sens à une vie qui n'a pas de sens.
Vous êtes ami avec ce personnage fictif, vous vous sentez proche de lui. On a envie de vous demander, on sait que vous êtes depuis très longtemps préoccupé par la question palestinienne, à la fois comme romancier, mais aussi comme chercheur, professeur. Ce sont des sujets que vous avez traités et suivis au long cours. Vous êtes Libanais, Elias Koury. Vous vous sentez palestinien de cœur ou palestinien de raison?
Les deux. Je pense que dans ce moment, dans l'histoire humaine, la Palestine est un critère de notre humanisme. Les Palestiniens sont pas seulement des victimes, mais ils sont des doubles victimes. Ils sont les victimes des victimes, et personne, parce que l'autre victime a dominé pour des raisons réelles, et je comprends. Après le Holocauste, après ce qui était fait, les massacres nazis terribles. Donc l'histoire juive a dominé et personne ne voulait pas entendre les Palestiniens. Donc c'est un double victime. Et dans ce sens, je pense que pour moi, dès le début, quand j'ai rencontré la Palestine avec mes amis d'enfance à l'école, je me suis rendu compte que je suis devant une tragédie terrible et je n'ai pas le choix que... Mon seul choix était d'identifier avec les Palestiniens.
Je voudrais que la Palestine devienne un texte qui transcende sa condition historique actuelle. Écrivez-vous dans Les Enfants du Ghetto, Elias Koury. Je voudrais comprendre ces mots, les vôtres, à mettre peut-être en miroir, si vous le voulez bien, avec ceux du poète palestinien Mahmoud Darwish. C'était en 2007, un an avant sa mort, traduit par Elias Sambar.
Nous vivons un conflit qui a maintenant quasiment un siècle. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui écrire le même poème que nous écrivions il y a 60 ans.
Et nous ne pouvons plus
remettre à plus tard notre vie personnelle dans l'attente de cette solution globale du conflit en tant que tel. Et le poème qui remet à plus tard la voix individuelle, la voix personnelle, en attendant que les très grandes questions soient résolues. C'est un poème inatteignable quasiment, qui est impossible. Et c'est des poèmes solubles, extrêmement solubles, un peu comme les slogans quotidiens. Et il faut savoir fondamentalement que le Palestinien est un être humain et non pas une fonction.
Le Palestinien est un être humain et non pas une fonction, nous dit Mahmoud Darwish. On pourrait ajouter, et non pas une fiction, Elias Khoury. Comment faire la différence? Et qu'est-ce qui différencie l'écrivain de l'historien, la fiction de la réalité?
Il y a une grande différence. D'abord, dans le cas palestinien, dans le cas de toutes les victimes, vous savez que l'histoire est écrite par des vainqueurs. Et les vainqueurs laissent aux vaincus un marge qui est la littérature. Donc la littérature, c'est
la voix du silence.
Et la silence, bien sûr, les deux. Et comment la littérature peut interroger le silence? Comment la littérature peut faire la silence parler en restant comme le silence noble des victimes? C'est ça l'enjeu, je pense, l'enjeu littéraire. Et c'est ce que Adam a essayé de faire tout le temps, parce qu'il voulait que la Palestine devienne un miroir humaniste pour tout le monde. Ce n'est plus l'histoire, les petites histoires palestiniennes, c'est l'histoire de toutes les victimes partout dans le monde. Et même, il dit Adam, que notre histoire parce que je suis maintenant en train d'écrire le deuxième volume de ce roman, c'est une trilogie. Donc, je suis en train de finir le deuxième
volume. Ça prendra 20 ans encore, comme après les Portes du Soleil?
Je sais pas, je veux mourir, j'espère que je le finis avant de mourir. Ils disent que l'histoire de la Palestine doit être ouverte à toutes les histoires des victimes, même à les histoires des victimes juives.
Je voulais vous faire écouter encore les mots de Charlotte Rampling, l'actrice comédienne qui nous parlait et qui était invitée récemment de la Grande Table autour de son film Anna, autour de cette question du silence, puisque vous nous dites, Elias Khoury, que le récit et la parole sont aussi là pour remplir un vide, permettre de réécrire l'histoire des vaincus, cette histoire qui n'est pas écrite jusqu'ici. Il y a tout un imaginaire à reconstruire. Écoutez.
Pourquoi on aime un film? C'est parce que ça nous rappelle quelque chose, que ça nous parle du monde de silence dans lequel on vit beaucoup de notre vie. C'est dans une forme de silence que où on oublie, où on dénie, où on dit que bon, ce silence n'existe pas et on le couvre avec du bruit tout le temps. Mais ce silence existe en nous et c'est notre monde inconscient, évidemment, qui est en éveil tout le temps, mais on ne l'écoute pas ou on ne veut pas trop l'écouter, sauf ça vient dans les rêves. Alors, tout ça, c'est quand on est affronté avec un changement, on sait absolu de la vie, où est-ce qu'on va? On va dans ce monde-là. On est obligé d'approcher ce monde-là, le monde du silence. Et vos silences sont très difficiles à écouter, parce qu'il faut le silence pour écouter le silence. On sait comment prier. Comment on prie, fait des prières si on n'est pas religieux? Comment on prie? On demande l'aide, on parle à Dieu. Mais Dieu, c'est... Voilà. Donc, tous ces questionnements. Mais le silence pour l'être humain est une richesse absolument énorme. Et si on ne le rencontre pas maintenant de nos vivants, ça va être plus difficile quand on approche la vraie fin.
Un silence couvert avec du bruit,
c'est
un bruit
joli.
Ambiant.
C'est très beau, c'est vrai. Ce qu'elle a dit, c'est super.
Mais elle dit aussi, Charlotte Rampling, que parfois il faut que le silence reste silence. Pourquoi faut-il forcément faire advenir la parole sur ces situations?
D'accord. Vous voyez, il y a un enjeu et un dialectique entre la parole et le silence. Si on prend par exemple le personnage de Manal, la mère de Adam, Manal était silencieuse tout le temps. Même quand elle parle des chuchotements. Et Adam, pour comprendre qu'est-ce que sa mère parle, ils doivent défricher ces moments de silence. Même il parle de la poésie de Mahmoud Darwish et il parle qu'il faut chercher les moments de silence dans la poésie de Mahmoud Darwish, c'est là-bas où il y a la poétique, la vraie poétique de ce poésie.
Et pour vous citer toujours sur cette idée du rapport aussi au passé ou de ce silence à creuser, je peux dire que j'ai vécu en solitaire dans la cage du ghetto, faite avec les mots de ma mère, avec ses histoires et avec sa nostalgie pour le temps des barbelés. Comment sortir de cette prison mentale ? La nostalgie en est une, sans quoi il est impossible d'imaginer l'avenir. Il est là l'enjeu, il est là le défi, c'est de pouvoir se projeter, de ne pas être constamment enfermé dans un passé.
Bien sûr.
Qui nous pèse.
Bien sûr, mais c'est très difficile. D'abord, dans ce premier volume, nous sommes seulement dans le ghetto. Ça veut dire, ça raconte seulement l'histoire du ghetto de Lod, qui est une histoire qui n'est pas connue.
Alors, il faut qu'on la raconte peut-être. Je vous cite encore. La tristesse n'a rien à voir avec le regret, elle est la mémoire. La mémoire n'a rien à voir avec la nostalgie. Elle est un tatouage incrusté au plus profond de nos êtres. C'est effectivement, ça. C'est important cette utilisation du mot ghetto. En Syrie, au Liban, pour désigner les lieux souvent clos où vivent les réfugiés palestiniens, on parle de quartier comme celui de Yarmouk à Damas ou de camp comme celui d'Aïn Eloué au sud Liban et qui concerne des populations qui sont déplacées. Mais on ne parle pas de ghetto, c'est un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ni d'employés, et qui évoque l'idée d'enfermement chez soi. Qu'est-ce que c'est l'histoire de ces ghettos et est-ce qu'il en reste encore ?
D'abord, après, directement après l'occupation, après la création de l'État d'Israël, les villes palestiniennes, dans les villes palestiniennes, restaient très peu des gens. Les Israéliens le groupaient dans un seul quartier qui a été fermé par des barbelés. Ça passait à Lod, à Lodda, ça passait à Ramla, ça passait à Haïfa, ça passait à Yafa. Et les Palestiniens ont connu le mot ghetto des Israéliens. C'est les Israéliens qui le nommaient de ghetto, jusqu'à que les Palestiniens pensent que le mot ghetto, c'est un mot hébraïque qui veut dire le quartier des Arabes. C'est l'historique de ça. Donc les ghettos ont resté dans les villes palestiniennes pendant un an et demi. Et après, les barbelés ont été enlevés. Mais le ghetto est resté dans la campagne, dans les villages, pendant 19 ans. Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de quitter ton village, sauf une permission de la gouverneure militaire de région, de Galilée ou de Triangle. Les deux grandes régions où restaient les Palestiniens en Israël. Et donc, la vie de ghetto a dominé les Palestiniens qui ont resté chez eux, qui est devenu Israël. Et pour eux, de casser les... Et la lutte, si on peut parler maintenant un peu de la politique, la lutte des Palestiniens en Israël, c'est de casser les ghettos, parce que les ghettos ne sont plus là, mais ils sont là. Ça veut dire, il n'y a pas...
Et leur il n'y a lutte, plus de barbelés.
Oui, mais il y a des barbelés symboliques qui dominent leur vie, et la lutte des Palestiniens en Israël, c'est pour deux choses, pour equality.
L'égalité.
Hein?
L'égalité.
Non, equality. Equals.
Équité.
Oui, pour pour leur droit à avoir, à ne pas être des citoyens de deuxième catégorie. Un État pour tous ses citoyens. C'était le slogan des Palestiniens en Israël, tandis que l'appareil étatique israélien insiste que Israël, c'est un État juif. Donc, et maintenant, les Palestiniens en Israël sont à peu près 1,5 million de 6 millions, donc ils sont à peu près 20% de la population. 20% de la population sont comme des étrangers dans leur pays. Donc, ce ghetto est resté et la lutte, c'est pour casser le ghetto. Maintenant, il y a une autre chose. Le ghetto a été élargi dans la Cisjordanie et Gaza. Gaza, c'est le plus grand ghetto dans le monde. Un ghetto qui est vraiment fermé. Et les villes de la Cisjordanie sont tous des ghettos. Donc, la ghettoisation totale de la Palestine.
Mais il y a ce courrier, quand on cite le mot ou qu'on utilise le mot ghetto, même s'il y a une trace historique, une raison d'être, si vous employez ce terme-là. C'est sûr que ça évoque tout de suite la page la plus sombre de l'histoire du XXe siècle, qui est aussi l'Holocauste, la Shoah, avec le ghetto de Varsovie. D'ailleurs, votre protagoniste, Adam, se fait passer souvent, même involontairement, pour un rescapé du ghetto de Varsovie. Et on sent que pour vous, il y a l'envie de non pas de comparer, non pas de mettre forcément sur un même plan ces deux expériences traumatiques, mais de les mettre en miroir. Et on sait que comparaison ne vaut pas raison. Vous marchez quand même un peu sur un fil, hein, en faisant le parallèle entre Varsovie et Lot, entre la Shoah et la Nakba, qui est l'exode palestinien de 48. Vous voulez nous dire ce que vous voyez en mettant ces deux situations en parallèle?
D'abord, il ne faut pas comparer, je ne compare pas. Le Nakba est le Nakba, et le Holocauste est le Holocauste, et il faut respecter les deux mémoires profondément. Maintenant, pour Adam lui-même, il était blond, comme Ahad Tamimi, la jeune palestinienne qui est maintenant en prison. Il était blond, et quand les gens demandaient à lui d'où vous venez, ils disent de ghetto. Donc pour eux, pour les Israéliens, c'était évident qu'il vient de Varsovie. Et ça va pousser Adam lui-même d'aller à Varsovie. Il va aller, dans le deuxième tome, il va aller à Varsovie, et il va aller au ghetto de Varsovie, et il va aller à Auschwitz. Pour comprendre. Parce que pour lui, il voulait comprendre l'autre. Et pour lui, le Palestinien doit être le miroir de l'Israélien, et vice-versa. Et si nous ne serons pas des miroirs les uns pour les autres, nous serons dans un cercle fermé de violence et de la folie.
Elias Khoury est notre invité jusqu'à midi et demi. Pour l'heure, il est midi 23 sur France Culture. Après un album hommage à Oum Kalsoum, qui vous est si cher, Elias Khoury, il revient avec une autre star de la chanson égyptienne que la France avait adoptée et que le Liban apparaît-il vénéré. C'est Dalida, hommage d'Ibrahim Malouf.
D'une étoile s'éteint dans le printemps du matin, comme la toile d'une voile s'est détend lorsque le vent s'éteint. Je me repose de mon chagrin. Mon cœur repose sur du satin. Comme une mère qui espère que l'enfant qu'elle attend n'oublie pas, que la douleur est amère d'apprendre qu'il ne reviendra pas.
On aura reconnu la trompette donc du trompettiste Ibrahim Malouf, qui a réuni pour cet album hommage à Dalida, Dalida by Ibrahim Malouf, plusieurs interprètes, chanteurs de la scène musicale française et européenne, dont le Belge Arnaud, pour ce titre « Je me repose ». Voilà, l'album vient juste de sortir dans les bacs. C'est vrai qu'elle était une star de la chanson, Dalida, Elias Khoury. Vous avez grandi avec elle aussi au Liban.
Dalida est toujours une star. Et j'ai eu la chance de la rencontrer comme elle fait son film le sixième jour avec Youssef Chahine. J'étais au Caire et j'étais au plateau. Et c'est une femme superbe. Et pour moi, Dalida, c'est l'Égypte. Bien sûr que c'est une autre version de l'Égypte.
Ibrahim Maloulou disait qu'elle a, elle avait tellement de succès au Liban que la plupart des Libanais pensaient qu'elle était libanaise.
Ah oui, les Libanais pensent que tout le monde sont Libanais.
La question est donc, qu'est-ce que le Liban aujourd'hui? Là, je reviens sur une tonalité un peu plus sérieuse, Elias Khoury. Un pays à nouveau en crise depuis la démission surprise de Saad Hariri, c'était en novembre dernier. On a revu les fractures libanaises au grand jour. Le Liban, caisse de résonance et variable d'ajustement des conflits régionaux. Je me souviens des mots d'Abbas Beydoun, grande voix de la poésie et de la littérature libanaise, qui disait que le Liban, c'était une belle idée, une idée de Liban, un idéal perdu avec la guerre. Comment vous vous faites, ou quelle idée vous faites-vous, vous, aujourd'hui, Elias Khoury, du Liban?
Maintenant, le Liban que, où je vis, je pense que le système politique libanais, on peut l'appeler le système de la guerre civile. C'est une guerre civile cachée. Le système reproduit la peur de guerre civile pour que les mafias dominantes, les mafias des différents leaders, des différents sectes religieux, peuvent dominer le pays. Et donc nous sommes dans une situation terrible parce que la guerre n'est pas là, elle est là tout le temps. Et le Liban est toujours dépendant des forces étrangères. Parce que les deux grands groupes politico-social au Liban sont les chiites et les sunnites. Et dans la région, il y a la guerre. Il y a vraiment une guerre. De Yémen jusqu'à Syrie, etc. Et le Liban est toujours sous le peur d'éclater.
Et des puissances qui s'affrontent par Liban interposé, l'une chiite, l'Iran, l'autre sunnite, l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est ça.
Et on voit le Liban coincé peut-être toujours entre cette situation. Vous avez signé avec d'autres intellectuels libanais une pétition à l'été dernier autour du sort des réfugiés syriens, intégration ou rejet. Comme avec les Palestiniens, 50 ans après, la question se repose. Quel Liban voulons-nous? Quel Liban veulent les Libanais aujourd'hui?
C'est ça, c'est le grand problème. Je pense que la situation politique confessionnelle, le confessionnalisme elle-même, c'est une forme de racisme. Et si vous êtes raciste contre l'autre confession, vous serez raciste contre les Syriens et les Palestiniens et les Sri Lankais et les travailleurs étrangers, etc. Et il y a une vague terrible de racisme au Liban qu'il faut lutter contre. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Et c'est très difficile.
Merci beaucoup à vous, Elias Khoury. Les enfants du ghetto, je m'appelle Adam. Votre roman vient d'être traduit de l'arabe en France par Rania Samara et il paraît chez Actes Sud dans la collection Sinbad. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Merci.